Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Eh ben non, on va pas la refaire.
On va pas la refaire à chaque fois. Maintenant, ça va devenir la blague, ça va devenir le running gag.
Toujours.
À la Fatine, qu'on embrasse, qui est pas dans les studios, mais qu'on embrasse très très fort.
Pourquoi elle est pas la Fatine ?
Pour des raisons familiales.
Ah mince.
Mais on l'embrasse très très fort. Fatine, si tu nous entends, tu nous manques.
On pense à toi.
On pense à toi très fort. Non, on t'envoie aussi plein d'amour. Mais sinon, nous, ça va très bien, Mathéo.
Ça va très bien, bah évidemment.
Avec le dos bloqué, moi j'ai le dos bloqué, mais ça va super bien.
Ah.
On fait avec.
Malheureusement avec, hein. Et j'espère que ça ne va pas gâcher Écoute ta fac.
Mais jamais. On est toujours en forme pour Écoute ta fac.
Toujours en forme.
Aujourd'hui au programme.
Mais aujourd'hui, évidemment, au programme, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment et toujours l'agenda du bouillon
et
qui
est
avec nous.
Fidèle au poste.
Qu'on aura dans un instant.
Avec cela, nous avons un invité spécial qui vient pour nous parler d'une de ses mises en scène, Eric Sena.
Ouais, c'est très lié au bouillon aujourd'hui. On a Eric Sena, le metteur en scène de la pièce D'Orphée aux Enfers, qui se joue ce soir, D'Orphée aux Enfers, Orléans 69 plus précisément, qui se joue ce soir au bouillon. On a le Talent Show qui nous vient
effectivement
nous faire un petit rappel de leur spectacle. Et on aura l'interview, ou du moins le passage, la présentation de J'écoute aussi bientôt au bouillon, qui viendra nous parler de débats-conférences sur la biodiversité et les écosystèmes.
Et évidemment, avec tout ça, évidemment de la bonne musique.
Évidemment.
Comme toujours dans Écoute ta fac. Et on va commencer
tout de suite
avec...
Ça va être l'agenda.
L'agenda, évidemment. Évidemment.
Évidemment, voilà, le mardi c'est compliqué, non, évidemment.
Toujours. Allez, on commence avec l'agenda du coup.
Écoute ta fac.
L'agenda.
Tu le veux celui-là ?
Et aujourd'hui, Lorraine ?
Et aujourd'hui une semaine même, du coup, hyper riche en événements culturels, puisqu'on va avoir au bouillon à la fois du théâtre, à la fois un film, mais aussi du coup un concert. Et ça, c'est important aussi parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de concert au bouillon. Mais effectivement, on va commencer d'abord par l'actualité brûlante, c'est-à-dire du coup la pièce de théâtre de ce soir. Et on est vraiment ravis en fait d'accueillir D'Orphée aux Enfers, Orléans 69, avec justement Eric Sena qui est à côté de moi. On est ravis déjà parce que l'année dernière, on avait eu la chance d'accueillir la lecture théâtralisée de D'Orphée. Et là, c'est en fait c'est la consécration un peu, c'est-à-dire qu'on va avoir le spectacle complet autour de cette rumeur d'Orléans. Et donc voilà, ça va être vraiment un très bon moment. C'est ce soir à 20h30 et on a la chance en plus que ce soit gratuit pour tout le monde. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Après, je ne vais pas m'étendre sur D'Orphée puisque Eric qui en parlera bien mieux que moi tout à l'heure.
On en reparlera dans un instant, oui.
Tout à fait, mais voilà, ça va être vraiment sympa. Donc vous venez ce soir, il nous reste un peu de place. Donc c'est le moment de venir voir cette très belle pièce. Après, dans un tout autre registre, demain on a en fait un film. Ça sera à 18h, c'est L'Esquive d'Abdelatif Kechiche, que je ne mange pas le nom. C'est un film en fait qui fait un parallèle vraiment très sympa entre Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux et puis les histoires d'amour en fait dans une cité HLM d'adolescents de maintenant. Et en fait, on va se rendre compte que du coup, tous les petits subterfuges et tout ce qui peut se passer justement dans les jeux de séduction, etc., et ben, au final, c'est pas si éloigné de ce qu'on peut retrouver en fait dans les pièces de théâtre, et notamment dans le jeu de l'amour et du hasard. Donc ça sera demain à 18h. C'est pareil, c'est gratuit pour tout le monde. Toujours réservation lebouillon.fr. De toute façon, pour tous nos événements au bouillon, c'est lebouillon.fr. Et puis jeudi, on accueille un concert. Et là, jeudi, c'est pas moi qui vais vous en parler, mais c'est Cassandra qui est avec moi, qui est en stage au bouillon et à qui je passe la parole et le micro tout doucement.
Donc, en effet, jeudi soir, le bouillon accueille la finale régionale du tremplin musical du Crous, donc Pulsation. Le concert commence à 20h30 et encore une fois, c'est gratuit pour tous. Donc, trois artistes aux univers bien distincts sont en compétition. Donc, tout d'abord, on a Lotus qui mélange du rap brut avec du rap chanté et des inspirations de rock. Alicia Metro nous proposera une chanson poétique et mélodieuse qui vacille entre la folk et le punk. Et enfin, Marius Beck, porté par la pop électro intime et puissant, tout en étant empreint de chansons françaises. pour clôturer la soirée, Party More, un rappeur orléanais, nous fera l'honneur d'être présent en tant que guest.
Eh ben, merci les filles. On vous retrouve la semaine prochaine, toujours pour l'agenda du Bouillon.
Merci
et
à
puis,
toi.
Et puis, on se retrouve peut-être au Bouillon pour se croiser pour tous ces événements.
Comment ça peut être? Nous, on vous attend au Bouillon.
Eh ben, on attend tout le monde, tous les étudiants au Bouillon. On s'écoute une petite musique, Mathéo?
Totalement. En plus, j'en ai une en réserve.
C'est pas super.
Toujours de la bonne musique avec Coup de ta fac. Et on a justement une bonne musique que je trouve, personnellement, Automation de l'amour de NSDOS.
Et bah c'est parti.
Et ben on écoute tout ça maintenant. Et c'était évidemment Automation de l'amour. Et maintenant, nous avons l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et nous recevons donc, on l'a vu en début d'émission, Eric Senna, metteur en scène de la pièce d'Orphée aux Enfers, Orléans 69. Alors, je vais faire le petit résumé déjà de la pièce. Selon les rumeurs apparues en avril-mai 1969, les cabines d'essayage de 6 magasins d'habillement dans le centre ancien d'Orléans et tous tenus par des juifs seraient en fait des pièges pour les jeunes femmes qui disparaîtraient par une trappe en bois située sous les cabines. Elle serait droguée par injection hypodermique et évacuée par de nombreux souterrains qui existent sous la ville pour être livrée à un réseau de prostitution, la traite des blanches. Dans une version même encore plus délirante, les souterrains aboutiraient sur la Loire où les clientes disparues seraient prises en charge par un sous-marin de poche pour être livrées à la prostitution. Alors Eric Senna, vous avez été formé au Conservatoire d'art dramatique d'Orléans et vous êtes diplômé d'une maîtrise d'Orléans d'histoire contemporaine. Vous aimez l'histoire, la poésie et la beauté de la langue française, ça se comprend. Vous faites partie de la compagnie du théâtre de l'imprévu, compagnie existante depuis 1986 déjà, dans laquelle vous êtes comédien, metteur en scène, adaptateur et l'un des fondateurs surtout. Comment est née cette compagnie d'abord et puis par prolongation comment est né l'amour du théâtre chez vous?
Alors c'est une histoire ancienne effectivement, bonjour à vous déjà.
Donc oui, c'était vous, du coup parler tutoiement
exactement Lucas, on peut se tutoyer. Donc c'était en 1986, nous étions trois anciens élèves du conservatoire. On avait 18 ans et on voulait continuer le théâtre après le conservatoire, après les 4 années de conservatoire. Et donc, la meilleure solution pour nous, c'était de créer cette compagnie et de monter notre premier spectacle qui, à l'époque, donc ce premier spectacle se nommait Solitaire à deux. C'était une création, écriture au plateau, comme on dit aujourd'hui, et qui a été jouée au Théâtre Gérard Philippe, qui ne s'appelait pas déjà le Théâtre Gérard Philippe, mais l'Espace Gérard Philippe à l'époque. Et donc, le théâtre de l'imprévu est né comme ça. Et après, depuis 1986, c'est forcément une très longue histoire.
Et du coup, pour toi, comment est né le goût du théâtre?
Le goût du théâtre, c'est toujours intéressant à savoir quand il faut remercier des enseignants. Moi, j'étais au collège, j'étais un élève qui, tout à coup, a découvert le théâtre grâce à une professeure de français qui m'a donné confiance en moi, qui m'a révélé, je dirais, parce que le théâtre, mes parents n'étaient pas du tout dans le théâtre, ni aucun membre de ma famille. Et donc, c'était une vraie révélation. Mais donc, j'insiste sur le fait que c'était une enseignante. Et donc, je ne l'oublierai jamais, cette dame.
Cette pièce d'Orphée aux Enfers, comment parce que ça part d'une rumeur.
Oui, c'est ça.
Comment est venue l'idée d'adapter et de jouer cette pièce?
Alors, la rumeur d'Orléans, moi, je suis né en 1967, donc je ne l'ai pas vécu. Mais j'en ai entendu parler très jeune. Il se trouve que ma mère était enseignante au lycée Jean Zay, qui a été un peu le cœur du réacteur de la rumeur. Et donc, à l'adolescence, elle m'en a parlé. Et donc, ça m'a marqué, en fait. Ça m'a même choqué, cette histoire. Et ensuite, donc, dans les années 80, il y a eu un film qui s'appelle Une vieille histoire, qui a été produit par le Théâtre d'Orléans à l'époque. Donc, un documentaire. Là aussi, ça m'a vraiment profondément marqué. Et puis après, je ne sais pas, cette rumeur, elle m'a toujours intéressé, elle m'a fasciné. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je ne comprenais pas comment c'était possible. Comment, 25 ans après la Shoah, comment dans une ville comme Orléans, on pouvait crier mort aux Juifs, que des gens puissent se rassembler devant notamment le magasin d'Orphée, comment cette rumeur a pu être si terrifiante et qu'une grande partie de la ville ait pu croire à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné et depuis très longtemps, je voulais travailler là-dessus, mais j'avais quand même un frein qui était que Orléans, c'est ma ville. Et je n'avais pas envie de donner une mauvaise image de ma ville, de dire Orléans, c'est une ville où l'antisémitisme est présent et tout ça. Donc ça me freinait beaucoup. Je connaissais aussi des gens qui ont été victimes de la rumeur. Donc c'est leur histoire et tout ça. Donc ça me freinait. Mais pendant le confinement a quand même servi à avoir des moments de réflexion. Je me suis dit que c'était le moment de le faire parce qu'il y a eu tellement de rumeurs, de fake news, de théories du complot les plus imbéciles qui soient, que je me suis dit qu'il fallait aussi traiter ça et que le meilleur moyen, c'était... pour moi, en tout cas, de le monter au théâtre.
Et est-ce que, justement, les rumeurs, la propagation de rumeurs, et pour utiliser les termes vraiment actuels, les fake news, est-ce que ça a été un levier encore plus important pour développer cette, cette pièce.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que donc, je me suis adressé à un auteur, parce qu'il n'y avait pas de, de pièce écrite hein, sur le sujet, donc, qui s'appelle Luc Tartare. Et donc, avec Luc, on s'est mis très rapidement d'accord sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une grande partie qui se passe en 69, c'est notre histoire, mais qu'une autre partie, peut-être un quart de la pièce, se passe en 2023, puisque bon, c'est là la date de la création. Pour tisser un lien entre ces deux époques, de voir que les théories du complot, les fake news, toutes ces idioties qui circulent dans nos villes et dans nos vies, eh bien, en fait, elles existaient déjà dans les années 60, bien avant aussi, mais qu'aujourd'hui, elles se sont développées différemment, et notamment avec les réseaux sociaux. Donc, on en parle vraiment de ça.
Malgré la renommée quand même de cette rumeur, oui. Parce que bon, pour les plus jeunes, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais ça a quand même une renommée oui. très nationale. C'est une rumeur, donc c'est pas c'est jamais vraiment fondé. Est-ce que vous avez voulu, pour, quand vous avez fait la pièce, avoir des supports historiques conséquents, ou alors ça a vraiment été juste la rumeur qui a suffi à créer cette pièce?
Non, non. En fait, la rumeur d'Orléans, c'est un fait historique. Et avec l'auteur, on voulait vraiment être proche de la réalité. Donc ça veut dire que l'auteur et moi, nous nous sommes beaucoup documentés. C'est-à-dire on a consulté les journaux, on a lu les livres qui existaient sur le sujet, on a vu des documentaires, on a rencontré des témoins, on est allé sur les lieux de l'histoire. Donc on était plein de toute cette histoire-là. Donc ça, c'était très important. Et ce qui est dit dans la pièce est absolument vrai. On n'a pas travesti la réalité. Après, il y a quand même une licence poétique qui a été amenée par l'auteur, puisqu'il a créé des personnages. Donc là, on est au théâtre. Il y a 13 personnages qui sont joués par 4 comédiens, 2 comédiennes, 2 comédiens. Donc 4 interprètes pour 13 personnages. Donc ça, il y a cette licence poétique-là. Mais autrement, la pièce d'Orphée aux Enfers, Orléans 69, c'est vraiment basé sur ce qui s'est passé à Orléans.
Et justement, les 4 personnages, pour, les 4
interprètes,
interprètes pour 13 personnages, comment, en tant que metteur en scène, on arrive à faire comprendre ça au public, de ces différents personnages, de passages? Est-ce que c'est un passage visuel, avec des costumes, ou est-ce que c'est vocal, peut-être?
Oui, tu as raison. En fait, donc, déjà, la scénographie, elle évolue d'une époque à l'autre. Les costumes... apporte forcément le côté années 60 qui n'est pas le côté de nos années 2020. Et puis après, c'est aussi le talent des interprètes de pouvoir se fondre dans un personnage différent à chaque fois. Donc Claire Vidoni, par exemple, elle joue vraiment 4 personnages et les autres en jouent 3. Mais à chaque fois, c'est à la fois un challenge pour l'acteur ou l'actrice et un plaisir aussi, parce que c'est formidable de passer d'un personnage à l'autre en une heure et demie.
Est-ce que vous avez... Parce que dans le processus de création, donc du coup, il y aura plusieurs époques.
Oui.
Et est-ce qu'il n'y a pas eu ce dilemme de se dire, est-ce qu'on reste totalement historique ou alors justement le fait de ce passage d'époque a été tout de suite une intuition trouvée. Oui,
tout de suite une intuition. Parce qu'effectivement, moi, je suis parti de ce moment du confinement où j'étais atterré par ce que je voyais, par ce que j'entendais quant à ces fake news, théories du complot et autres bêtises. Et donc, il fallait pour moi qu'il y ait un ancrage dans le monde d'aujourd'hui. Il fallait qu'on parle de notre monde pour mieux aussi analyser ce qui s'est passé en 1969. Parce que tout est lié, en fait.
Oui, tout est lié, mais comment ce lien... est-ce que tu trouves que le lien est encore toujours hyper d'actualité, même avec l'antisémitisme, avec ce sujet des fake news?
Il y a les deux points. Donc, des rumeurs ont circulé. Il y en a eu plein, des rumeurs. La dernière, c'est la fameuse camionnette blanche là, qui circule en banlieue parisienne, donc là, qui ne vise pas les Juifs, mais qui vise les Roms, par exemple. Donc, il y a eu aussi ce manège avec des chevaux de bois, avec des serpents dans les chevaux de bois. Donc là, c'était les forains qui étaient visés. À chaque fois, il y a un bouc émissaire. C'est quand même intéressant. La rumeur, elle n'est jamais là pour faire du bien. Elle est toujours là pour faire du mal, pour pointer du doigt, pour discriminer, pour mettre hors de la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait donc, au niveau des rumeurs, la diversité des rumeurs, mais toujours la recherche du bouc émissaire. Et puis après, c'est vrai qu'il y a cette dimension de l'antisémitisme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale parce que, comme tu le disais, bon, j'ai fait des études d'histoire. Et notamment, je me suis beaucoup intéressé à la déportation, à la résistance. Et donc, le fait, c'est ce qui m'avait choqué, moi, quand j'étais adolescent, de comprendre que 25 ans après la Shoah, des centaines de personnes pouvaient se réunir devant ce magasin d'Orphée, en plein centre d'Orléans, là, donc c'est rue du Chariot, à côté de la rue Royale, et crier « mort aux Juifs ». Et donc ça, c'est quelque chose qui est presque un peu tripal pour moi, ou viscéral. Et j'avais vraiment envie qu'on en parle aussi, puisque bon, l'antisémitisme, malheureusement, n'a pas disparu depuis 1969.
Il y a eu une étude sociologique qui a été menée, notamment par Edgar Morin. Oui. Est-ce que cette étude vous a vraiment servi? Est-ce qu'elle a été un peu fondamentale pour l'écriture de la pièce?
Alors, elle n'a pas du tout inspiré l'écriture de la pièce, mais par contre, elle est fondamentale parce que ce livre a été très important. Donc, il a été écrit dans des circonstances particulières. En fait, Edgar Morin est venu, c'était un jeune sociologue à l'époque, il est venu avec une équipe de jeunes sociologues. Ils sont restés 3 jours à Orléans.
Oui, c'est ça, trois jours.
C'est très bref, en fait. Hein, donc, mais ils se sont dispersés dans Orléans, je crois que c'est au mois de juillet 69. Donc, la rumeur est vraiment, c'est encore chaud, hein, c'est vraiment encore très présente. Ils n'ont pas le recul encore de l'histoire. Et le livre d'Edgar Morin, il a beaucoup marqué son temps parce que c'était une nouvelle manière d'envisager la sociologie, de faire de la sociologie. Et les jeunes sociologues ont apprécié ça. C'était neuf. Après, maintenant, on a le recul, on est 50 ans après. Et donc, les sociologues d'aujourd'hui ne partagent pas véritablement toutes les analyses d'Edgar Morin. Mais c'est normal parce qu'on a le recul de l'histoire. Et lui, bon, il a un peu minimisé la dimension antisémite, par exemple. Il s'est plus attaché, bon, c'est un homme de son temps aussi, donc à ce côté post-68. Donc, une société en évolution, une société en révolution, ça l'a beaucoup intéressé. Et donc, aujourd'hui, quand même, la dimension antisémite, elle est plus présente dans l'analyse des sociologues d'aujourd'hui, c'est sûr.
Tu interviens beaucoup à l'étranger.
Oui, c'est
régulièrement
vrai.
À l'étranger.
Oui, oui.
Est-ce que tu penses que ce sujet, soit de fake news ou de rumeurs très ciblées,
oui,
est très franco-française, ou alors ça touche une grosse partie du monde, en fait?
Bon, on peut dire que ça touche une partie du monde très importante. Bon, on le voit beaucoup aux États-Unis, par exemple, avec les mouvements comme QAnon et tout ça, enfin, qui sont des mouvements d'extrême droite épouvantables, quoi, vraiment. Mais vraiment, et on fait croire aux gens n'importe quoi, les platistes aussi. Enfin, ça défie l'entendement, quand même. Donc, malheureusement, fake news, théorie du complot, rumeur, je pense qu'il y a une dimension mondiale. Hein.
Et est-ce qu'avec cette pièce, il y avait une envie d'apporter une réponse, ou alors c'était vraiment des faits qu'on voulait raconter, enfin que vous vouliez raconter?
Après, je pense que c'est important de parler de cette histoire. C'est comment une ville, une partie d'une ville devient un peu folle quand même, mais que ce qui est important, c'est qu'une autre partie de la ville a résisté et a dit non, et à protéger en fait les commerçants. C'est-à-dire qu'il y a eu la contre-rumeur qui s'est mise en place. Et c'est ça qui m'a plu, notamment par rapport aux freins que j'avais sur l'idée d'Orléans, qui est une ville où l'antisémitisme peut être présent de façon très forte avec cette rumeur. Mais il y a une partie de la ville qui a dit non et qui a protégé les commerçants incriminés. Et notamment, c'est le milieu de la culture. Et ça, c'est quand même intéressant à souligner. Donc c'était Louis Guillou qui, à l'époque, était présent pour mettre en place ce qui allait devenir le théâtre à Orléans, qui est un grand écrivain, grand écrivain, et qui a pris la tête, en fait, de ce mouvement de contre-rumeur. Donc, moi, je voulais montrer des choses positives aussi. C'est pour ça qu'on a une héroïne qui s'appelle Eurydice, qui est une jeune fille qui a 17 ans à l'époque et qui ne va pas croire à la rumeur et qui va même chercher à protéger Monsieur Lumière, qui est donc le gérant de chez d'Orphée. Donc, on voulait aussi donner aux jeunes gens, et je sais qu'on attend des étudiants ce soir, aussi une image positive de la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse peut se perdre, mais aussi elle peut résister, elle peut dire non, et elle peut faire preuve de clairvoyance, de générosité. Et c'est quand même le message qu'on donne dans la pièce.
Pour finir, le nom vient d'un des magasins.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce qu'il y a une résonance avec l'opéra de Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers?
Bah, disons que c'est surtout le lien à la mythologie, hein, effectivement. C'est l'histoire de... Orphée est un poète, est un musicien, et donc il est amoureux d'Eurydice. Eurydice est piqué, ça c'est quand même intéressant, par un serpent. Donc ça fait un peu référence à nos histoires de piqûres.
Bah, oui.
Et donc elle meurt, donc elle descend aux enfers, dans les Hadès, enfin voilà. Et donc Orphée va la chercher. Donc il a la possibilité de la sortir des enfers, mais il ne doit pas se retourner avant d'être à l'extérieur. Et malheureusement, il se retourne. Et donc là, il la perd pour de bon. Et nous, ce qui nous intéressait avec l'auteur, c'est un peu un mythe d'Orphée inversé. Quand lui, l'auteur, Luc Tartare, il a vu qu'un des magasins s'appelait d'Orphée, il s'est dit, mais c'est incroyable. Parce que, en fait, l'idée n'était pas de faire un spectacle purement orléanais, mais d'aller au-delà. Et quand on s'appuie sur la mythologie, on touche au mythe, on touche à l'universel. Et donc, ça, ça a été vraiment fondamental pour l'écriture. Et c'est pour ça qu'il a appelé son héroïne Eurydice. Qui, d'ailleurs, dans la pièce, n'est pas très contente de s'appeler Eurydice parce que tout le monde se moque un peu d'elle, parce que c'est un drôle de prénom pour l'époque. Mais c'est comme un mythe inversé. C'est Eurydice qui va aller chercher le commerçant, Monsieur Lumière, dans les ténèbres, où il est plongé parce qu'il est attaqué ce samedi noir par la foule hurlante et haineuse.
Eh ben, merci d'être venu à l'antenne de Radio Campus Orléans.
Merci beaucoup, en tout cas.
Le spectacle d'Orphée aux Enfers Orléans 69, c'est ce soir, de 20h30 à 22h au Bouillon. Toujours la réservation, il reste des places sur Orléans, sur lebouillon-.fr.
Toujours. Et je suis encore là, évidemment. Et moi, j'aurais une petite question. Je vous ai entendu parler d'Orphée et tout ça, et ça m'intéressait, parce que je suis passionné de la mythologie.
Ah, très bien.
Et j'ai une expression, c'est rejoindre Orphée au ciel. Je ne me souviens plus c'est quoi l'expression, mais c'était pour dire qu'on allait dormir. Est-ce que c'est bien vrai?
Non, c'est Morphée.
Ouais, c'est Morphée.
Ah, c'est
bien tenté, mais c'est pas tout à fait le même. Ça finit pareil, mais ça ne commence pas pareil. Voilà.
Mince.
J'ai dans les bras de Morphée.
Ah, voilà.
Tu étais presque. Est-ce qu'on s'écoute un peu de musique pour
totalement.
Avant d'avoir les autres invités.
Totalement. Et puis en plus, il y a quelqu'un qui nous attend. Mais avant, on va écouter un peu de musique. Et la musique s'intitule Springtime de Wax Machine.
C'est parti.
C'est parti.
Tu es lycéen ou étudiant ? Tu as peut-être le droit à une bourse ou à un logement du Crous. Pour le savoir, remplis ton DSE, ton dossier social étudiant. En gros, tout se passe en ligne. Ça se fait en quelques clics, tu fournis les bons papiers et hop, en 5 minutes, c'est plié. Alors si tu veux toucher une bourse dès le mois de septembre et pouvoir demander un logement en juin, remplis vite ton DSE avant le 31 mai. Toutes les informations sont à retrouver sur jedemandemabourse.lescrous.fr. jedemandemabourse.lescrous.fr.
Écoute, écoute, écoute!
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac!
Et on reçoit du coup Robin Trassard, président de J'écoute. Comment tu vas ?
Bonjour, bah, très bien et toi ?
Et bah, ça va super, merci d'être à l'antenne pour nous parler. Tu viens nous présenter le débat conférence qui aura lieu le 26 mars.
C'est ça.
Et bah, je te laisse présenter tout ça, débat conférence.
Alors c'est un très très gros truc en fait, c'est un débat conférence qu'on a mis un an et demi à préparer. De dire mais pourquoi un an et demi pour préparer un truc pareil ? Parce qu'en fait, il s'agit du débat conférence scientifique ultime, entre guillemets, sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on a le GIEC, on a l'IPBES. Alors pour ceux qui se demanderaient ce qu'est l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, on pourrait le simplifier comme ça. On a tout un tas de profils très intéressants, c'est-à-dire qu'on va avoir des auteurs principaux, on va avoir notamment des personnes qui ont rendu des rapports, des brouillons de ces rapports qui vont être publiés que dans un an ou deux. Alors évidemment, il y a des informations qui sont sous embargo, mais d'autres qui ne le sont pas, et pour celles qui ne le sont pas, ça fait donc des infos en avant-première mondiale, quoi. Donc c'est un très très gros truc. On a aussi une personne qui vient de la FRB, donc la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, et qui est le genre de profil que vous allez voir par exemple dans des COP. Dans les COP, vous avez en général les scientifiques d'un côté et puis les entreprises et les gouvernements de l'autre, et vous avez des personnes qui font le lien entre les deux. Et bien typiquement, c'est ce genre de profil, en plus des scientifiques purs et durs, entre guillemets. Donc en fait, la présentation principale, elle va être assurée par deux auteurs de l'IBES et une personne de la FRB. Donc ça sera Colline Léandre pour la FRB. Et pour les auteurs de l'IPBES, c'est Jean-Marc Fromentin et Catherine Sabineau. Il faut savoir que Catherine Sabineau a fait le déplacement depuis Nouméa, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un sacré truc. Évidemment, elle ne vient pas que pour nous, l'empreinte carbone, tout ça, c'est important. elle vient aussi pour voir d'autres scientifiques. Et puis surtout, l'IPBES avait convoqué une partie de ses auteurs pour mettre au point certains rapports. Donc elle était aussi là pour ça. Et puis on aura deux tables rondes, tellement on a de monde. Donc une première qui va être avec quelqu'un du GIEC, peut-être vous connaissez. On avait déjà organisé une conférence avec lui, c'est Gonéry Le Cosané, auteur du groupe 2 du GIEC, sur l'adaptation. Et puis, on va avoir quelqu'un, alors il travaille aussi au BRGM, puis on a quelqu'un d'autre du BRGM, qui est un géologue spécialiste des ressources minérales, qui s'appelle Mathieu Le Guérinel, qui va aborder un sujet qui est très, très politique et qui est très sensible aussi, et puis qui a fait parler de lui dernièrement au sujet de la Norvège, c'est l'histoire du minage en eau profonde, qui est un sujet très très difficile à aborder. Donc il va en parler. Et puis enfin, on a un autre auteur de l'IPBES qui s'appelle Clément Feugère, qui vient d'AgroParisTech, mais Paris, pas Montpellier, parce qu'il y en a plusieurs des AgroParisTech, qui est en fait... qui a bossé sur le rapport qui n'est même pas encore existant, entre guillemets, qui l'a rendu son brouillon il y a très peu de temps, qui est le rapport entreprise et biodiversité. Donc en fait, il va permettre de se mettre au point sur quelque chose sur lequel moi j'avais beaucoup de questions personnellement, et je ne suis pas le seul, qui est-ce qu'on peut mettre un prix sur la biodiversité ? Très important pour des sujets économiques d'ampleur. On savait qu'on avait des débouchés sur le sujet climatique avec le prix du carbone. Mais là, du coup, on a un prix sur la biodiversité qui va arriver. Donc très intéressant. Ce n'est pas un économiste de formation. C'est quelqu'un qui fait plutôt de la gestion. Voilà. Mais le sujet est très intéressant. Et puis sur cette deuxième table ronde, on va avoir deux personnes de l'université. On va avoir Mathilde Baud, qui est une spécialiste des réseaux entre les plantes et les insectes. Qui travaille au laboratoire d'IES Paris, par contre, voilà. Et puis on va avoir Géraldine Roux, qui est également enseignante et qui est une spécialiste du traçage moléculaire des espèces invasives. Voilà. Puis évidemment, le directeur de l'UFR Sciences et Techniques et le président de l'université, probablement, on n'a pas encore confirmation pour le président, mais bon, y a bonne chance qu'il soit là quand même, quoi, s'il n'est pas pris ailleurs.
Eh ben, merci pour toute cette présentation. Je rappelle que c'est le mardi 26. Mars à 18h30, donc en gros de 18h30 à 22h30, ce sera suivi d'un pot, je crois.
Oui, alors il y aura un cocktail dînatoire, effectivement, parce que c'est exceptionnellement long. 18h30, 22h30, ça fait 4 heures. Alors heureusement, on est au bouillon, il y a les toilettes à côté, voilà, tout ça. Bon, je vais rappeler tout ça en début de conférence pour que ça inquiète personne. Il y a un live aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui seraient vraiment trop loin. Voilà, et ou s'ils ont plus de place aussi, parce que les réservations sont ouvertes à tout le monde depuis hier. Voilà, et puis évidemment, il y aura des questions-réponses à la fin aussi, pour que le public puisse poser des questions. On prendra aussi des questions du chat. Voilà. On va faire les choses bien et je vais être assez dur sur le chrono, je vais être obligé.
Et voilà, et donc pour les réservations, c'est sur lebouillon.fr. Merci beaucoup.
Ben, merci.
Merci encore à vous.
On s'écoute un truc avant le talent show.
Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai une petite musique qui fait bien son titre, Tenir debout, évidemment, par Rossé.
Tu dis ça parce que j'ai mal au dos ?
Non.
C'est ça ?
Non, c'est pas moi.
C'est pour te moquer de moi ?
Non,
bah,
c'est
sympa.
La musique qui se moque de toi, tu vois. Et on écoute ça et on arrive tout de suite, évidemment.
Où sont nos histoires ? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires ? On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. S'il est depuis des siècles, on fait tourner le manège. On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige. Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle. Pour pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Nos histoires authentiques, un détail dans leurs gros livres. Pour que l'Occident vive toujours ce foie, je s'ocline. Et ce pays produit des tabous et des phobies. Dans la chronologie de toutes ces colonies. Les écoles nous manquent mal parce qu'elles veulent pas le scandale. Cherche à faire du rentable mais la version est bancale. On efface nos histoires, on garde au pire des hommages. Pour rendre plus honorable tout un empire colonial. Tous nos héros s'effacent, font pas partie du débat. Faut remplir nos mentales avec des âmes et des voix. Qu'on cite Abdelkader, Cabral ou bien Makeba. Harriet Tubman, Césaire ou Keïta Soundiata. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. On laissera quoi aux gosses à part une vie de start-up. Des cagnottes, des hold-up, des ragots et des carottes. Aucune bonne intention, pas de projet de société. Cherche pas à protéger, cherche pas à s'auto-gérer. Tout le monde s'est fait léser, on aimerait se référer aux frères et sœurs passés qui auraient pu nous léguer des rêves et des échos, de l'espoir et du bon sens. Tous nos acquis sociaux et nos rêves d'indépendance. On sait rien de nos comptes, des combats qui les animent. Africains immigrés et ouvriers pactisés. Quand ils se trouvaient contre la face de l'impérialisme. Et pour s'organiser, ils devaient fraterniser. Tout ça a disparu pour qu'on ne sache pas le faire. Nous on se tire dessus mais on était frères hier. Fifi c'est triste mais il se passe rien de bien. Si tu récites un récit qui n'est pas bien le tien. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Amilcar Cabral, Franz Fanon, Tina Silla, Mohamed Maïga, Malcolm X, Paulette Nardel, Olympe de Gouges, Ruben Enyobé, Myriam Makeba, Kwame Touré, Sekou Touré, Adolfo Kaminski, Ali Lapointe, Che Guevara, Ho Chi Minh, Vo Nguyen, Giap, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Angela Davis, Keïta Soundiata, Emir Abdelkader, Marcus Garvey, Rosa Luxembourg, Solitude, Cheikh Anta Diop, Bobby Sands, Aimé Césaire, Rosa Parks, Léon Gontran Damas, Francis Janson, Henri Alec, Jean-Jacques Dessalines, Jean-Marie Chibaou, Ariette Topman, Fid Milayo, Ransom Kouti, Assata Chakour, Germaine Tillon, toutes les anonymes, tous les anonymes, les mères, les pères, les chers, les sages, les martyrs, les générations sacrifiées. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires, on ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout.
Écoute, écoute, écoute.
C'est l'invité d'Écoute ta fac.
Écoute ta fac.
Et le dernier invité de cette journée, c'est plusieurs invités, c'est l'organisation dite avant la dernière ligne droite. Bah, je vous laisse la parole à une semaine presque de ce spectacle. Bonjour.
Bonjour. Donc le talent show aura lieu le 28 mars, c'est jeudi prochain, à partir de 19h au Théâtre Gérard Philippe. C'est un concours de talents qui existe depuis 6 ans. Donc là, c'est la 6e édition et il y a 12 talents qui vont se produire sur scène, tous étudiants du campus et aussi lycéens, sur scène au Théâtre Gérard Philippe. Et donc, c'est un spectacle très convivial. Il y aura une première partie avec les gagnants de l'an dernier, le groupe Divastrana. Et puis, il y aura aussi de l'animation avec deux DJ, un confirmé, Randy Chick, et un jeune qui se lance, Nathan, qui vont animer l'avant-spectacle et l'entracte. Et on a aussi une buvette, une tombola, enfin voilà. Donc, ça va être une soirée assez complète.
Tout est prévu pour s'amuser, c'est ça ?
Tout à fait. Et il y a toujours une bonne ambiance. Les étudiants, en général, invitent leurs amis, leurs familles à venir, puisqu'il y a un vote du public pour élire les trois gagnants. Donc, ils sont tous très excités. Il y a une bonne ambiance dans la salle, aussi sur scène.
Est-ce que le stress se fait sentir un peu autour des participants?
Oula, oui, beaucoup. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de personnes qui sont un peu stressées pour l'événement, mais ils se sont déjà un peu tous rencontrés et ils sont très heureux de travailler ensemble et de se revoir. Donc ça promet de bien se passer.
Est-ce que tu peux te présenter tout simplement? Oui, toi.
Alors, moi, c'est Alfifreda. Et donc, c'est la première fois que j'organise le talent show. J'ai découvert ça l'année dernière, parce qu'il y avait des filles de ma classe qui le faisaient. Et j'ai voulu me lancer à mon tour aussi.
Et comment ça se passe pour l'organisation? Est-ce que c'est pas compliqué? Alors, t'es bien entourée?
Très bien. Je suis vraiment très bien entourée. Et pour ma part, franchement, ça se passe bien. Parce que j'ai quand même l'habitude de participer à des événements comme je fais du basket. Donc, on a à peu près des événements tous les ans, que ce soit avec les petits ou voire même les plus grands. Et là, vraiment, pour moi, c'était vraiment l'occasion vraiment d'organiser quelque chose de A à Z.
Non, pas toute seule quand même.
Non, pas toute seule, accompagnée, mais au moins, je contribue.
Et comment on organise un événement comme ça, de A à Z, d'un d'aussi grand? Parce que c'est quand même grand. C'est pas rien, quoi.
Beaucoup de travail, hein.
C'est ça. Ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, l'esprit d'équipe surtout, c'est important. Mmh. Bien se disperser les différentes tâches et pas tout faire soi-même, parce que c'est vraiment impossible de tout faire soi-même.
En effet, c'est impossible de tout faire soi-même, hein. Je pense que je peux le dire avec Mathéo. Heureusement que tu es là ce midi.
Ah bah oui.
est-ce qu'on peut parler un peu des personnes qui seront présentes, des artistes?
Bien sûr, oui. On a 12 talents, donc certains jouent en duo ou en trio. Il y a aussi une troupe de théâtre. Donc, ils ont tous été sélectionnés au terme d'auditions qui se sont déroulées au Bouillon. Voilà. Pour rejoindre Alfie sur l'organisation, maintenant, le talent show fait partie d'une UE d'ouverture. Donc, les étudiants qui s'inscrivent participent à l'organisation, mais ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup plus à faire que l'heure et demie hebdomadaire à laquelle on se rencontre. Donc c'est vraiment un investissement incroyable pour eux, voilà, de tous les jours. Et puis donc ils ont participé aux auditions et en ce moment ils coachent les talents, c'est-à-dire ils ont des rendez-vous réguliers avec eux pour parler de la mise en scène, de la mise en place, puisqu'on est quand même accueillis dans des locaux professionnels avec une équipe de professionnels qui, c'est un vrai spectacle, c'est pas un spectacle amateur, voilà.
Et ce coaching, est-ce qu'il est important pour vous aussi qui êtes de l'autre côté et pas forcément qui allez passer sur scène? Est-ce que ça vous donne de l'expérience aussi?
Franchement, oui, parce que du coup, ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes et de travailler en équipe. Par exemple, moi, je gère la troupe de théâtre. Ils sont 4 et on est 2 coachs du coup pour eux. Et se voir tous ensemble, c'est compliqué. Ils ont des idées différentes. Du coup, il faut réussir à canaliser tout ça. Donc c'est un travail quand même assez important, mais c'est super bien de voir et de rencontrer énormément de personnes.
Et pour finir, est-ce que professionnellement, ça vous donne des idées en se disant « mais en fait, c'est pas si mal ce métier ou cette voie-là »
Carrément, ouais, carrément. Et potentielle réorientation, là.
Ah, réorientation peut-être, carrément.
Moi, franchement, oui. Parce que je suis vraiment quelqu'un qui touche à tout. Donc le fait d'organiser l'événement, de coacher des talents, parce que je coach 2 talents, ça me donne vraiment envie d'aller plus loin, de poursuivre un peu pour voir jusqu'où je peux y aller.
Je rappelle la date, c'est le jeudi 28 mars, à partir de 19h jusqu'à à peu près 22h, voilà, avec plein d'activités, une tombola. Moi, j'aime trop les tombolas.
venez, ça fera toujours plaisir.
On invite tout le monde à venir du coup au théâtre Gérard Philippe. Mathéo, ouais. Une musique?
Une belle musique.
Toujours. Mais toujours. Et puis après, ce sera au tour d'Hélène, je crois, qui va venir nous raconter ses petites histoires.
Et oui, parce que de 14h à 15h, il y a les cahiers de l'emploi.
Et oui.
Cahiers de l'emploi, évidemment. Suivi du Moulin à Parole, toujours, évidemment, on connaît bien. De Novorama. Suivi de 18h à 19h, Campus Local Club. Ensuite, nous avons les Bâtons Rompus. Ride On à 20h jusqu'à 22h. Et enfin, pour finir, le catalogue électronique jusqu'à minuit.
Mais tout de suite, c'est de la musique.
Mais tout de suite, une bonne musique que j'annonce, Little Robot de Neat Flay. Et évidemment, ce n'est pas fini. On se retrouve pour...
Eh bien oui, t'as relancé du gros métal là derrière.
Ah, quel alors métal
qu'on a, alors qu'on a Hélène qui
oui, mais c'est bien le métal aussi.
En fond ?
Tu veux garder ? Eh bien, vas-y.
Tu peux laisser le métal en fond. Hein.
Métal en fond,
je laisse le métal en fond. Allez.
Tu peux me préciser quel style de métal c'est ?
Alors, le métal, je sais pas, mais le nom, je peux te le dire, c'est Ghost.
D'accord. Non, parce qu'il y a toutes sortes de métal.
Il y a du cuivre, il y a du...
Et du death metal, du... bon voilà.
Ah oui, non, j'étais pas sur les mêmes métaux. Moi. Okay.
Ah d'accord.
Ah oui. Okay. Bon, bah, on va parler or, argent. Alors actuellement, l'or remonte.
C'est pas vrai en plus. Je crois qu'il descend.
Non, non, mais c'est un truc refuge, je sais pas quoi.
Enfin bref.
Qui n'a pas son petit lingot d'or ? Moi.
Moi ? Tout le monde autour moi. De ce studio. À moins qu'il y ait des secrets. Lucas, tu as de l'or, toi ?
Non, j'ai pas d'or.
Non. Ouais.
Et bah, ça va demander une augmentation de salaire, ça tient.
Surtout qu'il est bénévole, du coup. C'est,
c'est tout bénef pour nous.
Et bah, les histoires insolites.
Les histoires insolites.
D'Hélène. Et pas de Hélène. Parce que j'ai dit de Hélène en off.
Tu peux, mais je me suffis à moi-même, comme dirait l'autre. Donc, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Hélène.
Bah, chauvinisme, je vais commencer par les Français. La très grande étourderie d'un homme a failli lui faire perdre 1 million d'euros.
Un lingot d'or.
Ah ben non, ça vaut pas tant. Ou alors, il faut en avoir beaucoup. Une idée ? Non, bah non. Dans l'après-midi, il avait acheté un ticket de jeu à gratter dans un bar et avait gagné 150 euros. Il était tout content. Et il avait immédiatement réinvesti dans de nouveaux tickets à gratter. Voilà, et le voilà parti. 150 euros quand même, ça fait pas mal de tickets à gratter. Alors qu'il était tranquillement assis au bar, le joueur s'est mis à sauter partout en criant « J'ai le million, j'ai le million !» Se sentant soudain mal, le fait de voir son ticket gagnant à 1 million, il dit « Je vais rentrer chez moi me reposer. » Et il oublie son ticket sur le bar. Évidemment.
Évidemment.
Fort heureusement pour lui, la buraliste qui avait été vigilante avait mis le ticket gagnant dans le coffre même du bar. Billet qu'il a récupéré quelques heures plus tard, remis de ses émotions avant d'aller récupérer son gain plus loin. Donc faites gaffe quand même.
Oh, elle est quand même sympa la buraliste. Hein.
Oui, elle est sympa.
Ça va, et elle aurait pu prendre le billet.
Ouais.
Oui.
Est-ce que tu penses que les bureaux de tabac ils touchent des commissions sur... Parce que ça se trouve, elle, c'est à son avantage, quoi.
Non, il touche pas de commission. Ça doit être, c'est pas au gain. Je pense que c'est par rapport à ce qu'ils vendent.
Ah ouais.
Par rapport à ce qu'ils vendent. Mais eux, buralistes, non. Je crois qu'ils. Ils
ont enfin, après, pas eux, ça leur fait toujours de la
je
visibilité.
Ils ont pas le droit de jouer en plus.
Oh putain.
Bah.
C'est quand même triste.
La loose.
Ouais, mais bon.
Non, mais je veux dire,
c'est trop facile. Hein, on le met devant la lumière. Attends, il gagne.
Tu crois que ça fonctionne comme ça ?
Non. Je l'ai fait. Fut un temps. Maintenant, ils ont renforcé. Je vais dire, il faut vraiment gratter. Ah bah oui.
C'est pas drôle,
malheureusement. Ça.
Alors, toujours une histoire d'argent, mais de l'autre côté du Channel, à savoir en Angleterre.
Ce sera la dernière histoire.
D'accord, elle se dépêche. Ah bah tout pour le pognon. Alors, cette fois, c'est une gagnante qui, elle, ne l'a pas récupéré, son gain. C'est une vieille dame qui a gagné plusieurs fois divers jeux pour un équivalent d'environ 27 000 livres. Or, son dernier gain de 800 livres a attiré l'attention de l'opérateur de la loterie. Donc, du coup... Il lui a envoyé un détective qui est venu enquêter sur son cas. La mamie, elle a 70 balais. Bon. J'ai été traitée comme une sorte de criminelle à cause du nombre de victoires que j'avais remportées. J'ai gagné trop souvent, donc je suis suspecte. Il faut savoir que ces 800 livres de son dernier gain, elle ne les a toujours pas reçus. Depuis. Non, ils ont mis une enquête et ce n'est pas normal.
Ah, ils ont stoppé.
Ils ont stoppé. Alors, entre l'autre qui oublie son ticket... Et elle a que 800 livres.